Rencontre avec Christophe Gruau, voilà un homme qui se donne les moyens de ses envies et pour la bonne cause. Sa prochaine expédition reliera Moscou à Paris à la rame. En tout, 4634 km, 40 cours d'eau et 7 pays à traverser. Gérard Daboville est bien entendu son parrain et plusieurs scientifiques se sont déjà prononcés car il ne s'agit pas d'un trip sportif, mais environnemental et surtout pédagogique. Un portrait signé Pascal Marcaggi.
Moscou, Paris, à la rame. Il fallait y penser, il y a pensé. Il faut dire qu'il a l'entraînement à penser différemment. Christophe Gruau, un être parfaitement normal.
À la base, je suis un être comme tout le monde. Je ne fais juste que vivre ma vie, tout simplement. J'ai 46 ans, des rêves d'enfant toujours plein la tête, donc ça ne change pas. Donc ma vie aujourd'hui, c'est une retraite que j'ai prise il y a 13 ans de ça, alors qu'avant, je travaillais dans l'audiovisuel et qu'il y a un moment où je me suis dit qu'il valait peut-être mieux aller voir ce qui se passait ailleurs.
Ça, soit dit en passant, ce doit être pour les autres médias que pour Radio Ethica. Enfin bref.
Parce que je suis parti voyager, donc c'était en 98, le début du voyage, j'ai commencé par aller voir les lieux saints et sites sacrés. Il y avait évidemment sur la planète, manque de chance, en général, j'arrivais sur des tas de ruines. Avec les marchands du temple autour, il fallait retrouver en bibliothèque en fait les informations. Ça, c'était le côté au départ intéressant, et puis bon, un peu de désillusion là-dessus sur ce que je voulais apprendre. J'avais en souvenir et en mémoire mon grand-père qui avait fait son tour du monde en 1934 et qui, lorsqu'il était passé du côté de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, avait pris un thé sur la rive. Et les papous étaient venus. Alors à l'époque de mon grand-père, quand il voyageait, il était habillé costard blanc et de façon très très chic. Et lorsque les papous sont arrivés, ils sont arrivés avec le peigne dans la tête, les tupéniens et rien de plus. Mon grand-père a eu la délicatesse de leur laisser un bout de glace pour voir comment ils allaient réagir. Et moment que j'aurais pris pour quelque chose de très très émouvant, de quelqu'un qui découvre ce que c'est que de la glace, il s'est avéré que lui a eu ce discours des explorateurs de l'époque, c'est-à-dire un discours très froid et très dégradant par rapport aux primitifs.
De fait, sans mauvais jeu de mots, ça peut faire froid dans le dos.
Et justement, je me suis posé la question petit, qu'est-ce que j'ai encore de primitif. Donc de là, la vie a fait que j'ai décidé un jour de prendre une machine volante, un ULM pendulaire, et je suis parti en direction du berceau de l'humanité, c'est-à-dire le Grand Rift, en traversant le Sahara. Voilà. J'ai eu la chance, évidemment, ou plutôt la malchance, de planter ma machine au milieu du marécage au Sud-Soudan, ce qui m'a permis de rencontrer les primitifs de façon concrète, et de me rendre compte que les primitifs, entre un primitif et un civilisé, il n'y a absolument aucune différence.
Aller se dire bonjour entre primitifs, d'accord, mais le moyen de transport, l'ULM pendulaire, capable, pas capable...
Si, l'ULM, on a toujours rêvé de voler, l'humanité a toujours rêvé de voler. Aujourd'hui, c'est accessible. Un permis ULM, ça coûte 1500 euros, allez, voire 2000 euros maximum. Vous achetez un ULM, donc une machine volante, à partir de 1000-1500 euros. Donc maintenant, on peut voler. Donc c'est une machine accessible, mais hélas, peu utilisée. Il faut savoir qu'au niveau accidentologie, il est plus dangereux de voler avec un avion privé pour le même nombre d'heures de vol équivalent. Il y a plus de morts en avion privé qu'en ULM.
Bon, on va prendre l'ULM pendulaire. C'est plus sûr que le métro. Dans le métro, s'il vous arrive quelque chose, eh bien, on le sait, la civilisation peut rendre très très sauvage. Tandis qu'au beau milieu d'un marécage planté dans le désert, l'humanité accourt pour vous filer un coup de main.
D'abord, il a fallu communiquer avec les primitifs qui étaient là pour leur expliquer d'où je viens, pourquoi je suis ici et quand est-ce que je vais revenir, parce qu'il faut que je revienne avec des pièces pour réparer la machine et pouvoir repartir. Donc évidemment, ça commence par un jeu de Pictionary sur la Terre en parlant avec le chef de la tribu pour expliquer la situation. Après ça, évidemment, il y a toujours cette solidarité humaine, quelles que soient nos origines, chose que l'on voit toujours en voyage et qui évidemment nous permet d'aller de toute façon plus loin. Tout seul, on ne va jamais très loin. Et à partir de là, en échange de services, on va dire, ils m'ont aidé à transporter l'équipement et j'ai pu comme ça prendre la porte de sortie.
Voilà, dans la vie, le tout est d'avoir de vrais points de repère, ce que l'on appellerait ses points cardinaux.
Pour faire simple, ma maison est en Thaïlande, ma femme est à Cuba, ma famille est en France et mon travail est en Afrique.
Et en général, on ne s'en vante pas. Lui le dit carrément sur l'antenne de Radio Éthique, Christophe Gruau a fait un mariage blanc.
Oui, complètement. Alors, je suis français, non résident français, itinérant. Voilà, c'est-à-dire que je voyage depuis 13 ans maintenant, je change de pays régulièrement. Ce qui fait que pour aider quelqu'un qui justement était atteint d'une maladie, qui devait se faire enlever les trompes et les ovaires, j'ai fait un mariage blanc, donc c'est-à-dire je me suis marié avec quelqu'un juste pour avoir les papiers, la faire venir en France, la faire soigner. Alors comme je ne suis pas la sécurité sociale, que tout le monde se rassure, c'est moi-même qui ai payé les frais. Et une fois que ça a été fait, elle est retournée dans son pays pour continuer sa vie et j'espère avoir plein d'enfants. Voilà.
Petite précision, à Cuba, pour vous ôter un kyste, on vous fait, ainsi que son nom l'indique, une radicale. Fermeture de la parenthèse médicale et mille excuses aux âmes sensibles. Moscou, Paris à la rame, Christophe Gruau serait-il franchement tombé sur la tête ?
Moscou-Paris à la rame, c'est histoire de faire un peu le contre-pied des gens qui traversent l'Atlantique à la rame. Il faut savoir que dans la vie, il y a deux choses. C'est quand on fait, on va dire, un exploit sportif, je dis bien entre guillemets, soit c'est pour flatter son ego, soit c'est pour une bonne cause. Voilà, flatter son ego quand on traverse l'Atlantique, enfin, hormis ça, je ne vois pas ce qu'on peut faire d'autre. Le Moscou-Paris à la rame, ça sera évidemment de bien manger, de changer de décor tous les jours et de rencontrer un maximum de personnes pour partager cet événement-là. Donc en effet, c'est juste l'histoire de quelqu'un qui va partir de Moscou jusqu'à Paris. Le parcours reste encore secret puisqu'il y a 40 cours d'eau à faire en 100 jours, c'est 4634 km. Sur internet, les gens pourront voir l'évolution du parcours et découvrir le parcours comme ça. L'objectif principal, il y a quatre objectifs. Le premier, c'est un objectif sportif pour ouvrir plus tard une compétition à travers l'Europe. Le deuxième objectif, c'est un objectif pédagogique. En fait, travailler des enfants sur le Moscou-Paris au niveau des nouveaux diplômes de l'environnement tels que le bac pro aménagement paysager, plus l'école Gobelin qui a participé, qui a fait le site internet et le logo. Il y a un objectif culturel parce qu'évidemment, cet axe Moscou-Berlin-Varsovie-Paris est un axe, je dirais même les Vikings déjà passés par là. Donc là-dessus, on a encore beaucoup de choses à dire. Et évidemment, un des gros objectifs, c'est la partie environnement. Parce que ce que j'ai découvert, alors c'est bien de voler dans le Sahara avec une machine volante en toute liberté, mais quand je me suis retrouvé à faire le repérage du Moscou-Paris, j'ai retrouvé encore plein d'endroits sauvages, authentiques, évidemment fragiles, et puis très intéressants, parce que loin de tout ce que je connaissais, même si à la base je suis français et j'ai vécu en France 33 ans, voilà, le Moscou-Paris à la rame, ça a été cette découverte-là de l'environnement. Et donc, on va vraiment mettre ça en avant.
On l'arrête plus, hein. Bon, le parcours tenu top secret, on a quand même une vague idée, 4634 km, la traversée de l'Atlantique c'est 5000 km, on est donc dans les mêmes eaux, 40 cours d'eau, 7 pays traversés et quelques lieux, et ça c'est la différence avec l'Atlantique, plutôt sympa à découvrir.
Dans les lieux, oui, enfin, il y a déjà des lieux que j'ai hâte de retrouver. Il y a entre autres Vejma. Vejma, ça se retrouve en Russie. C'est là où, entre autres, le maréchal Davout s'est pris une déculottée par les Cosaques à l'époque de Napoléon. C'est là, entre autres, où je vais me retrouver parmi les castors. Les castors qui est un animal protégé déjà depuis un siècle. Il y a un siècle, il n'en restait plus que 1200 en France. Maintenant, ils sont 430 000, donc vraiment bien réimplantés. Ils étaient massacrés à cause de leur fourrure, plus d'autres choses comme le castoreum, etc. Bon, maintenant, l'animal a été réintroduit. C'est un animal qui est très très important pour la biodiversité. C'est un animal ingénieux, hein, il va participer à la création de zones pour avoir une biodiversité incroyable. Donc voilà, ça fait partie des points forts que j'ai envie de retrouver. Plus la Biélorussie, qui est un pays étonnant de modernité. Je m'attendais à voir la mafia, j'ai eu la chance de ne pas rencontrer ce côté-là. Plus, enfin voilà, enfin, en fait, il y a déjà toute une série, dans chaque pays, il y a déjà des particularités qui me font donner envie de le faire, si c'était possible, tout de suite.
Et oui, ça donne envie. Bon, pour y aller chez les Cosaques, concrètement, ce que l'on appelle les boutons de guêtre, enfin l'embarcation et les rames, quoi.
Alors, j'ai concrètement 4634 km à faire. Il y a deux endroits impossibles à faire avec un bateau normal. À la base, j'utilise une yole de mer réaménagée, donc c'est un prototype. Une yole de mer qui fait 6 mètres de long, 36 kg, 75 cm de coque, 6 mètres d'envergure avec les rames. Avec ce bateau-là, je fais 90% du parcours. Par contre, pour les castors et pour le contournement de Tchernobyl, là où je prends des canaux d'irrigation, parce que je passe à côté de Tchernobyl, là, je vais passer avec un canoë monoplace classique. Vous savez, le canoë qu'on retrouve chez les Indiens. Voilà.
Date de départ.
Le départ se fait concrètement le 9 juin 2012 de la Place Rouge et j'arriverai à Paris le 16 septembre 2012.
L'entraînement, lui, a déjà commencé.
Oui, l'entraînement se fait régulièrement, donc évidemment, soit en salle de sport, soit directement sur l'eau. Je pars la semaine prochaine sur Arcachon pour faire 400 km dans le bassin, voir ce que ça donne. Parce qu'actuellement, tout est entraîné, le cœur, les poumons, les muscles, tout va bien sauf les fesses. Donc, il faut que je fasse un essai sur une durée d'une semaine, voir ce que ça donne.
Aïe, il faut être de cycliste, quand on a mal là, on a pas mal ailleurs. Donc, ne pas crier au fou si vous le voyez sur le bassin d'Arcachon. D'autant que Christophe a une autre particularité, tout comme 60 millions d'autres énergumènes, il est français.
Quand on voyage dans le monde, généralement, quand on voit un Français avec une machine bizarre, je pense à l'ULM pendulaire, les gens me disent « c'est normal, t'es Français ». Les Français ont l'habitude de voyager, paraît-il, avec des choses bizarres. Alors bon, peut-être qu'on a ça dans le sang, faut croire.
Pour alimenter ses rêves et aussi un peu son estomac, de quoi vit donc Christophe Gruau ?
Je suis auteur. Voilà. Donc je vis de mes livres. Là actuellement, je suis en train de développer deux livres chez Photopédia. Photopédia, ça s'écrit F-O-T-O-P-E-D-I-A, qui seront exclusivement visibles actuellement sur iPhone et iPad.
Il n'a rien qui est normal. Mais quel est le lien avec Wikipédia ?
Photopédia, c'est le Wikipédia de la photo. Voilà. Lorsque vous allez pouvoir aller voir une photo sur Photopédia, vous allez avoir le lien Wikipédia plus le lien Google. Comme ça, vous allez savoir exactement où la photo a été prise, plus les notes de l'auteur, plus enfin, tout un tas d'informations. Le premier livre est prévu pour novembre. Le deuxième est prévu pour mois de mars.
Novembre 2011 et mars 2012 de Photopédia et septembre 2012 Moscou-Paris à la rame. La nature et les primitifs, ça vous botte les fesses musclées d'un homme tout à fait normal pour faire tout ça.
La nature, l'environnement, tout ce qu'il y a autour de nous va toujours que dans l'évolution. Il y a un proverbe d'ailleurs qui dit qu'il n'avance pas recul. Bon ben voilà, j'ai décidé, je me dis, ben tiens, je ne connais pas le Sahara, je vais prendre une machine volante, je vais l'explorer. Je ne connaissais pas avant l'Amazonie parce que j'ai voulu entre autres aller voir des zones et me mettre au milieu de zones sauvages, voir comment j'allais réagir en tant qu'humain. Et voilà, et ainsi de suite. Donc régulièrement, on va dire, chacun a ses petits défis. Bon voilà, moi mon petit défi, c'est d'avoir envie et de concrétiser mes rêves.
Facile, mais dire que les primitifs qu'ils cherchaient étaient, et ça aussi c'est une loi de la nature, au coin de la rue.
On vit ici dans un environnement qui est, je vais dire artificiel, parce que c'est nous-mêmes qui l'avons construit. Je me suis évidemment posé la question de savoir qu'est-ce qui me restait de primitif. Et je voulais justement rencontrer des primitifs pour savoir quelle était la différence entre eux et nous. Il s'avère qu'évidemment j'en ai rencontré dans différentes circonstances. Chaque fois, il y a toujours eu un échange, un regard avec beaucoup d'intelligence des deux côtés. Enfin, j'espère que j'aurai en tout cas envoyé cette image-là. Et en fait, j'ai eu la vraie réponse à savoir ce que il nous reste de primitif. Ça a été simple. J'étais dans Paris avec le scooter. Je me suis arrêté à un feu et en regardant comme ça sur le trottoir, d'en face, je vois une petite fille avec son papa. Le papa regarde la vitrine, la petite fille de 3 ans me regarde et donc instinctivement je lui fais signe. Et à ce moment-là, la petite a eu un regard sur moi et un regard sur son père qui est exactement ce que je retrouve en brousse avec les enfants. Et je me suis dit, en réalité, la petite fille est aussi primitive que ce que je vois habituellement. Ce qui fait qu'en fait, on vient tous du même endroit. Hein. Hormis le bas-ventre de notre maman, on est tous, dès qu'on en sort, après ça, soit un civilisé, soit un primitif. Mais en fait, on est tous pareils.
Et toc pour ceux qui se croyaient uniques, dire que l'ego ne se recycle même pas. Enfin bref, mieux vaut se pencher sur le berceau de l'humanité, tout simplement parce que c'est beau.
Actuellement, l'ULM est au pied du Kilimandjaro, donc j'ai survolé dernièrement l'Éthiopie, Djibouti, le Kenya et la Tanzanie, justement pour le prochain livre du mois de mars qui sera sur le Grand Rift. Et au niveau berceau de l'humanité, il faut savoir quand même qu'il y a encore 160 millions de personnes qui vivent dans des tribus. Il ne faut pas croire que tout le monde est civilisé. Vu de Paris, ça paraît comme ça au départ.
Où apparaît tout le monde n'est pas civilisé, Christophe Gruot, qui a compris là où le bât blessait parfois, et ce quel que soit l'endroit de la planète.
En général, en vol avec l'ULM, j'emmène surtout des femmes. Pour des raisons simples. La première, lorsque je prends un homme, on va dire en brousse, pour le faire voler, il va faire le fier autour des autres hommes, en rabaissant du regard tous ceux qui sont autour de lui. Une fois qu'il est en l'air, il fait de l'huile. C'est vraiment, il s'accroche à moi, il a peur, c'est absolument incroyable. Et lorsque je le repose au sol, évidemment, il ne parle pas de sa peur, il fait encore le fier, mais il n'apporte rien à la communauté. Lorsque j'emmène des femmes, en général, les hommes raillent les femmes parce que justement, elles vont voler, ils pensent qu'elles en sont incapables. Lorsque le décollage se fait, les femmes en l'espace de 3-5 minutes, c'est pas qu'elles sont dans leur élément, mais d'un seul coup elles se détendent et elles absorbent tout ce qu'il y a autour d'elles. Et j'ai vraiment l'impression de voler avec quelqu'un derrière moi qui se prend déjà pour un oiseau. Elles vivent ces moments-là avec une grosse intensité, elles captent vraiment tout ce qui se passe autour d'elles et lorsqu'elles arrivent au sol, elles le partagent avec les autres femmes de la communauté et avec les enfants. Donc l'échange est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus intense. Donc le vol avec des femmes est quand même bien plus intéressant.
Honnêtement, il l'a dit spontanément. Personne ne lui a arraché les yeux pour que cela lui sorte. Cela se vérifie aisément sur Facebook et aussi sur moscouparisalarame.com. Mais avouez, il mérite un petit coup de pouce, Christophe.
Ah, alors, actuellement, je suis en recherche de financement jusqu'à décembre, voire peut-être février, sur le Moscou Paris à la rame. C'est vrai que en général, lorsque je présente le projet, les gens pensent tout de suite sport, sponsoriser un sportif. C'est pas du tout le cas. Hein. Vous avez bien vu, je suis pas taillé comme un sportif. C'est pas que j'ai du bide, mais presque. Non, en fait, c'est avant tout pour toutes les entreprises qui voudraient justement coller à cette image environnement, filer un coup de pouce sur ce projet-là, nous permettrait de communiquer. Dans les objectifs, entre autres, bon, il y a des scientifiques qui suivent le Moscou Paris à la rame, spécialistes de castor, de poissons d'eau douce, de qualité des eaux, de radioactivité, puisque je passe en Ukraine. Il y a aussi une volonté de vouloir apprendre aux enfants tout ce qui est bio-indicateur. C'est-à-dire qu'un enfant qui soit civilisé ou primitif devrait pouvoir lire dans son environnement s'il est dans un environnement qui évolue dans le bien ou dans le mal. Voilà. Donc on va collecter des informations. Les élèves actuellement de la Fondation d'Auteuil du Château des Vaux participent au Moscou Paris à la rame en me donnant des informations. Et on voudrait justement pouvoir communiquer là-dessus parce que c'est quelque chose qu'il faut partager. Pour cela, il faut que le Moscou Paris se fasse. Et pour que le Moscou Paris à la rame se fasse, évidemment, il va falloir des sous.
À bon entendeur civilisé, salut, car dans la vie, mieux vaut donner un petit coup de main qu'un grand coup de pied au cul. Il vous est rendu au centuple. Et oui, c'est ça la loi de la nature, pardon, de la civilisation.